Je vais vous présenter quelques tests expérimentaux de la mécanique quantique. Et au-delà de toute cette couverture dont on a déjà parlé, je pense que dans les jours qui viennent, je vais mettre sur le site de mon groupe à l'Institut d'optique, qui est http, deux points, pas de www, directement atomoptique avec un C, point, u-psud.fr. Je pense que je vais mettre deux articles sur le sujet que je raconte aujourd'hui, des articles qui ont été publiés il y a une dizaine d'années dans le courrier du CNRS et qui sont difficiles à trouver. Donc, je pense que je vais les scanner et les mettre là-dessus dès demain. Alors, je vais vous parler donc des fondements de la mécanique quantique et de tests expérimentaux de la mécanique quantique. Vous savez tous que la mécanique quantique est une théorie qui a été élaborée au début du XXe siècle, entre 1900, Planck, et 1925, où on peut dire que la mécanique quantique telle que nous la connaissons aujourd'hui était déjà bien élaborée. Et cette nouvelle théorie physique a eu immédiatement des succès considérables en ce qui concerne l'interprétation du monde que nous avons autour de nous. C'est la mécanique quantique qui a permis de comprendre la liaison chimique, c'est la mécanique quantique qui a permis de comprendre la structure des solides, le fait que les solides sont solides, le fait que lorsque je pose ce stylo sur cette table, ici, il ne passe pas à travers, mais il reste à la surface de cette table. Toutes ces propriétés du monde qui nous entoure ne peuvent s'interpréter correctement que dans le cadre de la mécanique quantique. La mécanique quantique est également le cadre naturel pour interpréter l'interaction entre la lumière et la matière émet de la lumière quand on la chauffe ou quand on l'excite, vous avez des lampes, la lumière peut être absorbée par la matière. Il existe également un processus qui s'appelle l'émission stimulée, qui est à la base du laser, et tous ces processus se décrivent parfaitement dans le cadre de la mécanique quantique. Alors, est-ce que c'est bien sérieux et bien raisonnable de vouloir prétendre tester une théorie qui est déjà manifestement si bien confirmée par le fait qu'elle explique tout le monde qui nous entoure? Eh bien, la réponse est oui, les physiciens ont eu envie, à la fin de ce XXe siècle, dans les années 1980, de faire encore des expériences pour être bien sûr que la mécanique quantique marche comme on le croit. Et pourquoi ont-ils eu cette envie en dépit de tous ces succès que je viens de brosser rapidement? Eh bien parce que la mécanique quantique, c'est une théorie qui a complètement bouleversé tous les cadres conceptuels dans lesquels s'exerçait la pensée en général et la pensée scientifique en particulier. À la fin du XIXe siècle, la physique est déjà bien établie. Il y a d'un côté les particules, les corpuscules, dont on va décrire le mouvement par la mécanique newtonienne, mécanique extraordinairement fructueuse. C'est encore elle qui aujourd'hui nous permet de lancer des fusées aux confins des systèmes solaires avec une précision diabolique. La relativité a apporté quelques petites corrections à cette mécanique newtonienne, mais je dirais pas de bouleversement. On continue à passer à des corpuscules qui se déplacent, sous l'effet de force. Et puis, d'un autre côté, vous avez les ondes, dont la lumière est le plus bel exemple. Vous avez aussi les ondes sonores, mais la lumière est le plus bel exemple des ondes. Et là, vous avez l'électromagnétisme, autre théorie bien établie à la fin du XIXe siècle et qui vous permet de parfaitement comprendre la propagation de la lumière, qui vous permet de parfaitement comprendre aujourd'hui la radio, la télé, le téléphone portable, enfin bref, tout ce qui marche avec des ondes électromagnétiques. Ces deux domaines sont bien identifiés. Il y a des objets qui sont des particules, et puis il y a des phénomènes qui relèvent des phénomènes ondulatoires. Eh bien, la mécanique quantique mélange tout ça. Un électron, au sens de la mécanique quantique, est à la fois une particule et une onde. Et la lumière, au sens de la mécanique quantique, est à la fois une onde et une particule. Et ça, c'est très difficile à comprendre, et je vais essayer de vous le montrer dans une première partie de cet exposé. Et puis, il y a un deuxième point qui a été soulevé par Einstein et ses collaborateurs Podolsky et Rosen en 1935. Einstein, Podolsky et Rosen ont découvert que la mécanique quantique prévoyait, dans certaines situations très rares, que deux particules pouvaient avoir des corrélations, j'essaierai d'expliquer ce mot plus tard, des corrélations absolument impossibles à comprendre dans le cadre conceptuel qu'on avait jusque-là. Et ça a été un long débat de savoir si ces corrélations prévues par la mécanique quantique absolument bouleversante, il me semble, pour un esprit habitué à des images traditionnelles. Est-ce que ces corrélations, on peut ou non les observer dans la nature? Et ça, c'est ce qui a été l'objet des expériences qui ont été menées, je dirais, dans les 2 dernières décennies du XXe siècle. Donc je vais commencer d'abord par revenir sur quelque chose qui normalement est bien connu, mais pourtant je pense qu'on peut toujours y revenir, c'est toujours aussi étonnant, c'est la dualité onde-corpuscule. Et je vais vous décrire pour cela une expérience qui a été faite il y a une vingtaine d'années par un de mes étudiants, Philippe Grangier, alors qu'il faisait sa thèse d'état à l'Institut d'optique. Et dans cette expérience, nous avons envoyé de la lumière issue d'une source un peu particulière, c'était en cela que cette expérience était intéressante, je vais en dire un mot tout à l'heure, sur une lame séparatrice. Une lame séparatrice, c'est un morceau de verre qui transmet une partie de la lumière et qui réfléchit une partie de la lumière. Et dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis 2 détecteurs derrière la lame séparatrice. Vous avez donc un faisceau transmis, un faisceau réfléchi, je mets un détecteur ici et je mets un détecteur là. Alors ces détecteurs sont un petit peu particuliers, ils sont extrêmement sensibles et il y a des électrons qui sont émis sous l'effet de la lumière et ces électrons, on peut les compter un par un. On dit qu'on fait une détection en comptage. On peut même dire en comptage de photons. Alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien on observe ici, vous avez des impulsions électriques et vous avez un compteur qui permet de compter les impulsions électriques. On en compte 1 million par seconde. Et puis, si la lame séparatrice a un coefficient de transmission de 50% et de réflexion de 50%, eh bien, vous avez le même flux lumineux d'un côté et de l'autre, dont vous comptez en moyenne 1 million par seconde ici et 1 million par seconde là. Jusque-là, absolument rien de bouleversant. Si vous vous représentez la lumière comme une onde, il n'y a pas de problème. Il y a ici un faisceau, une onde qui a une certaine intensité. Elle déclenche un certain taux de comptage. Vous avez ici une onde qui a la même intensité. Elle déclenche un autre taux de comptage. Là où les choses sont devenues un peu surprenantes, pas vraiment surprenantes, on s'y attendait, c'est qu'on a mis ici un compteur de coïncidence. Qu'est-ce qu'un compteur de coïncidence? C'est une espèce d'horloge extrêmement précise qui est capable de vous dire si 2 détections ont lieu exactement en même temps ou pas exactement en même temps. Alors vous allez me dire, que veut dire exactement? Eh bien ici, en l'occurrence, nous avions une résolution de 5 nanosecondes, 5 milliardièmes de seconde, et on pouvait dire que 2 détections avaient été faites avec un intervalle de temps plus petit que 5 nanosecondes. Dans ce cas-là, on enregistrait quelque chose ici. Si on avait une détection ici à un certain instant, une détection là un peu plus tard avec un intervalle de temps plus long que 5 nanosecondes, alors on ne détectait rien au niveau des coïncidences. Alors si on a une vision ondulatoire de la lumière, on a ici un certain flux, on a ici des impulsions qui sont émises régulièrement, et puis ici on a un autre flux, des impulsions qui sont émises régulièrement, et il n'y a pas de raison pour que de temps en temps, par chance, mais on sait calculer la probabilité de cette chance, il n'y a pas de raison pour que de temps en temps, on n'ait pas une coïncidence entre les deux coups. Il peut très bien arriver qu'une détection ici et là soit simultanée. Et on sait calculer quel est le taux de détection en coïncidence que l'on attend si les choses se passent de cette façon, avec un flux régulier, indépendant d'un côté et de l'autre. Et ce que nous avons observé, avec une source très particulière que nous avions développée pour l'occasion, ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y avait jamais aucune coïncidence ici. Autrement dit, on ne pouvait pas se représenter la lumière arrivant ici comme une espèce de flux qui se coupe en deux, et puis des détections en permanence ici, en permanence là, de telle sorte que de temps en temps, on la détectait des deux côtés. On était obligé de se représenter la lumière qui arrivait ici comme formée de grains, de photons, qui vont soit tout droit, soit sont réfléchis. Mais ils ne sont pas coupés en deux. Donc, les uns vont ici, les autres vont là, et ils sont bien séparés dans le temps. Nous avions développé cette source spécialement à cet effet. C'était ce que nous avons appelé une source de photons unique. Les photons sont émis un par un, de façon bien séparée dans le temps, et donc les photons soit vont tout droit, soit sont réfléchis, ils ne sont jamais coupés en deux. Et vous voyez qu'on est obligé de renoncer à l'image d'onde. Une onde, encore une fois, c'est quelque chose qui peut se couper en deux sans difficulté. Là, les photons, les grains de lumière, ne peuvent pas se couper. Soit ils vont tout droit, soit ils sont réfléchis. Donc cette expérience nous a montré que la source particulière que nous avons construite émet de la lumière dont les propriétés apparaissent manifestement corpusculaires. Dans un deuxième temps, Nous avons enlevé les compteurs qui étaient là et nous avons remplacé, tout en gardant la même source et la même lampe semi-réfléchissante, nous avons modifié l'appareil de la façon suivante. Nous avons rajouté deux miroirs, un premier miroir ici, un deuxième miroir là, et recombiné les deux faisceaux lumineux sur une deuxième lampe semi-réfléchissante qui est ici. Ceux d'entre vous qui ont déjà vu un schéma d'interféromètre reconnaissent ici un interféromètre de Mach Zehnder. Ici, je combine, si je reprends une représentation ondulatoire, l'onde se coupe en deux, une partie de l'onde voyage de ce côté, l'autre partie voyage de l'autre côté, ces deux ondes se recombinent sur la lame semi-réfléchissante, et si je regarde par exemple la sortie horizontale ici, eh bien, j'ai une onde qui est passée par le haut, une onde qui est passée par le bas, les deux ondes s'ajoutent, et donc, si on croit à l'image onde, on va observer des interférences. On doit observer que le taux de comptage ici, ou le taux de comptage dans l'autre voie, dépend de la différence entre les deux chemins. Lorsque la différence entre les deux chemins va être égale à exactement une longueur d'onde, les deux ondes vont arriver en phase et je vais observer un signal. Si au contraire la différence entre les deux voies est égale à une demi-longueur d'onde, les deux ondes vont arriver en opposition de phase, elles se neutralisent, on a une interférence destructive et on n'observe rien. Nous avons fait l'expérience et voilà le résultat. Alors on a fait l'expérience avec des rythmes plus ou moins élevés. Lorsque le taux de comptage est tellement faible qu'on n'observe que quelques coups, il est difficile de voir quelque chose. Mais si on attend suffisamment longtemps pour que, à chaque position des miroirs, on a un signal significatif, alors voilà ce qu'on observe. Dans l'une des voies, voilà le nombre de coups que je détecte en 10 secondes à chaque position du miroir. Et on voit que lorsque le miroir est ici, à cette position-là, eh bien, on n'observe rien, c'est une interférence destructive, alors que quand le miroir s'est un tout petit peu déplacé, il s'est déplacé en l'occurrence d'une fraction de micromètre, alors là, on a un signal qui est maximal, l'interférence est constructive. Je déplace le miroir un petit peu, l'interférence est destructive, elle est constructive. Ici, j'ai la deuxième sortie. Une sortie horizontale, la sortie verticale. Et la théorie montre que lorsque l'interférence est destructive d'un côté, elle doit être constructive de l'autre. Vous voyez bien que ça correspond à la troisième graduation ici. Voilà, c'est constructif et ici c'est destructif. Donc, cette expérience me montre que la lumière qui est émise par ma source, ici, se comporte bien comme une onde. C'est-à-dire, elle se comporte comme une onde qui se partage en deux, qui se recombine, et c'est pour ça que lorsque la différence des chemins, du chemin qui est en haut et du chemin qui est en bas, lorsque la différence des chemins est égale à une longueur d'onde entière, l'interférence est constructive. Lorsque c'est égal à une demi-longueur d'onde, l'interférence est destructive. Donc cette expérience me prouve que la lumière est une onde. Oui, mais l'expérience précédente me disait qu'il y avait quelque chose qui allait soit en haut, soit en bas, mais jamais des deux côtés à la fois. Eh bien, le problème de la dualité onde-corpuscule, il est là. Il est dans le fait que la même source et la même lame séparatrice, suivant que je mets cet appareil-là derrière, ou l'autre appareil, l'interféromètre, eh bien, dans un premier cas, on est conduit à se le représenter comme émettant des grains qui ne peuvent pas se couper en deux, des corpuscules, alors que dans le deuxième cas, on est conduit à se le représenter comme émettant une onde continue qui se coupe en deux et qui vient se recombiner et interférer. Le problème conceptuel que cela porte, c'est qu'on n'arrive pas à réconcilier les deux concepts. Une chose doit être une onde et se couper en deux, ou un corpuscule, aller soit d'un côté et de l'autre. Comment est-ce que ça peut être les deux à la fois? Eh bien, c'est l'un des problèmes de base de la mécanique quantique. Tout ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est que je ne connais pas d'image raisonnable qui puisse rendre compte de cette chose-là. En revanche, le formalisme mathématique de la mécanique quantique, lui, est parfaitement capable de rendre compte des deux choses à la fois. Mais tout le problème, c'est que ce formalisme mathématique, on ne sait pas en faire d'image. Alors, si vous pensez que ces discussions sont un petit peu vaines, il faut quand même que vous réalisiez que ça a littéralement traumatisé les physiciens pendant la première moitié du siècle. Par exemple, quelques citations amusantes. Une lettre de 1913 pour soutenir la candidature d'Einstein, je crois, à l'Académie des sciences de Prusse ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas avoir mieux, mais bon. Donc voilà, messieurs Planck, Warburg, Nernst et Rubens, très grands savants, en 1913, veulent soutenir la candidature d'Einstein à l'Académie des sciences de Prusse. Je vous rappelle qu'Einstein a déjà fait des coups d'éclat. Et parmi les divers coups d'éclat, en 1905, il a émis l'idée que la lumière était formée de grains, de photons. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra le prix Nobel en 1921. Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour la relativité, il l'a eu pour l'idée du photon. Et voilà ce qu'on nous dit. Ces messieurs nous disent, il n'y a pratiquement aucun des grands problèmes en physique moderne auquel Einstein n'a pas apporté une contribution importante. Évidemment, quelque temps, il a raté le but, par exemple dans son hypothèse du quantum de lumière, c'est-à-dire du photon. Mais ça, on ne va pas vraiment le retenir contre lui. Parce qu'il n'est pas possible d'introduire des idées fondamentales nouvelles, des idées fondamentalement nouvelles, même dans les sciences les plus exactes, sans de temps en temps prendre un risque. Donc voilà, ces grands savants en 1913 disent, là vraiment avec le photon, Einstein s'est complètement trompé. Or il va avoir le prix Nobel pour ça, hein, 8 ans plus tard. Donc ça vous donne une idée du traumatisme de ces gens face à l'idée de la dualité onde corpuscule. Millikan qui en 1915 valide l'hypothèse du photon et une trentaine d'années plus tard, Millikan raconte cette histoire. Et il revient là-dessus. Et il dit, j'ai passé 10 ans de ma vie à tester cette équation d'Einstein de 1905. Et contrairement à toutes mes attentes, j'ai été obligé, en 1915, de reconnaître qu'elle était vérifiée de façon non ambiguë, en dépit de son caractère totalement non raisonnable, car elle semblait violer tout ce que nous savions sur les interférences de la lumière, c'est-à-dire précisément sur le caractère ondulatoire. Et enfin, je ne vais pas vous abreuver de citations, Alfred Kastler, qui, vous le savez, a eu le prix Nobel dans les années 60, en 1930, jeune professeur à Bordeaux, participait à la séance de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, et il écrit La théorie corpusculaire et les phénomènes de polarisation de la lumière. Sur la théorie corpusculaire, phénomène de polarisation de la lumière, il écrit un certain nombre de choses et il conclut les efforts de conciliation de Louis de Broglie ont abouti à l'admirable synthèse de la mécanique ondulatoire aux mécaniques quantiques. Synthèse qui dit que la lumière est à la fois onde et corpuscule. On est maintenant en 1930, on pense qu'on a compris. Et Kastler continue. Mais cette synthèse continue à inquiéter le physicien. Pour lui, la dualité entre les aspects ondulatoires et corpusculaires de la lumière reste un mystère non résolu. Est-ce que c'est résolu ou pas aujourd'hui? Personnellement, je crois qu'on s'y est bien habitué. Je pense quand même, je suis toujours incapable de vous donner une image raisonnable où je puisse vous montrer quelque chose qui est à la fois une onde et un corpuscule. La seule chose que je puisse faire, c'est vous montrer le formalisme mathématique. Mais s'il n'y avait que ça, si j'ose dire, ce ne serait pas grave. Il y a encore pire, ce qui est encore pire, ce sont les corrélations quantiques Einstein-Podolsky-Rosen. De quoi s'agit-il? En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen inventent ce qu'on appelait à l'époque une expérience de pensée, qui va plus tard devenir une expérience réelle. Et cette expérience de pensée, ils l'ont expliquée avec des particules matérielles, mais c'est un peu plus compliqué à comprendre. Donc je vais vous la présenter tout de suite sous sa version moderne avec des photons. Alors la première chose que je dois vous expliquer, c'est ce qu'est une mesure de polarisation. Nous avons ici une source de lumière, elle émet vers la droite un flux lumineux et nous admettons désormais qu'il s'agit de photons, de grains de lumière. Et ce photon peut être polarisé. Être polarisé, ça veut dire qu'il vibre soit dans le plan vertical, soit dans le plan horizontal, soit dans un plan à 45 degrés, et puis des tas de choses plus compliquées, polarisation circulaire, elliptique, etc. Alors comment mesure-t-on la polarisation d'un photon? Eh bien, on le mesure, par exemple, avec un magnifique, j'ai ici un magnifique cristal de Spitzbergs qui m'a été donné par des amis brésiliens. Ça vaut cher, un morceau de cristal comme ça. Et alors on observe la chose suivante. Vous voyez ici, si je le pose sur l'écran, vous voyez que les images sont dédoublées. Et elles sont dédoublées parce que la lumière naturelle qui éclaire en dessous comporte toutes les polarisations possibles. Or, le cristal qui est là est capable de discriminer entre une polarisation dans ce sens et une polarisation dans ce sens. Vous voyez que si je le tourne, le dédoublement tourne. Alors, c'est avec un dispositif de ce type, ou des dispositifs équivalents, que l'on peut mesurer la polarisation de la lumière. On met ici un dispositif de ce type, et si la lumière est polarisée verticalement, elle va sortir dans le rayon du haut. Mais si elle est polarisée horizontalement, perpendiculairement au tableau ici, elle va sortir dans le rayon du bas. Et j'ai donc ainsi un appareil qui me permet de dire si la lumière est polarisée verticalement ou horizontalement. Que se passe-t-il si j'envoie sur mon analyseur de polarisation? Que se passe-t-il si j'envoie de la lumière polarisée à 45 degrés? 45 degrés, c'est ni vertical ni horizontal. Eh bien, si l'appareil est placé verticalement, on va avoir 50% de chances de sortir dans le canal 1 et 50% de chances de sortir dans le canal moins 1. En revanche, si je le fais tourner, que je le mets à 45 degrés, je vais avoir 100% de chances de sortir dans le canal plus 1 et 0 de sortir dans l'autre. Et c'est ainsi qu'on fait des mesures de polarisation. Alors, l'expérience d'Einstein-Podolsky et Rosen, elle est un peu plus compliquée. Il y a deux photons qui sont émis, et comme j'ai besoin de garder cette figure et que je veux passer d'autres transparents, je vais la dessiner au tableau. Donc, la source qui est là au milieu, je redessine la figure qui est là-haut. Donc, je pense qu'on va éclairer. Oui, ça va. La source qui est donc ici émet d'un côté des photons que j'appelle nu1, et je dessine volontairement bleu. De l'autre côté, des photons que je vais appeler nu2, je les dessine volontairement vert. Ils ont des couleurs différentes. On sait parfaitement les discriminer en mettant des filtres. Ici, je fais une mesure de polarisation avec un premier analyseur de polarisation qui est capable de séparer une polarisation verticale d'une polarisation horizontale. Ou bien, si je le tourne à un angle qui est caractérisé par une direction caractérisée par un petit vecteur ici, eh bien, c'est capable de me dire si la lumière est polarisée dans cette direction ou dans la direction perpendiculaire. Si c'est polarisé parallèlement à A, je trouve plus 1. Si c'est polarisé parallèlement perpendiculairement à A, je trouve moins 1. De l'autre côté, je mets un autre analyseur de polarisation dans une direction caractérisée par un vecteur petit b. Et si c'est polarisé parallèlement à petit b, je trouverai plus 1. Si c'est perpendiculairement à petit b, je trouverai moins 1. Voilà le schéma de base. Alors, il ne suffit pas, pour faire une expérience de type Einstein-Podolsky et Rosen, il ne suffit pas de mettre n'importe quelle source ici. Il faut avoir réussi, et c'est tout l'objet du problème, à construire ce qu'on appelle un état intriqué ou un état Einstein-Podolsky et Rosen. Que ceux qui n'aiment pas les mathématiques ne s'effrayent pas dans ce qui vient. Il y a des équations, mais si vous fermez vos oreilles au moment des équations, vous pouvez continuer à écouter ce que je dis. Et puis ceux d'entre vous à qui ces équations parlent, je pense que ça ne leur gâchera pas la soirée. Vous allez voir, c'est simple les mathématiques qu'on utilise ici. C'est parfois difficile, mais ici, ce sont des mathématiques simples. Lorsque j'ai deux photons qui sont émis ici, mes deux photons pourraient être polarisés tous les deux verticalement suivant la direction x. Dans ce cas-là, on dirait qu'on a fabriqué une paire XX. Mais on pourrait aussi bien avoir émis deux photons qui tous les deux sont polarisés suivant Y, comme ça. Et dans ce cas-là, on dirait qu'on a une paire polarisée YY. La chose stupéfiante qui a été reconnue par Einstein, Podolsky et Rosen, qui est autorisée par le formalisme de la mécanique quantique, c'est qu'on peut fabriquer un état intriqué de ce type, qui est la superposition d'un état où les deux sont polarisés suivant X et les deux sont polarisés suivant Y. Et ça, je ne peux plus faire aucun geste pour vous dire le premier photon est comme ça et le deuxième est photon. Et comme ça, les deux photons sont liés de façon totalement indissoluble, et seule la polarisation, si j'ose dire, de l'ensemble a un sens. Cet état-là, je ne peux en aucun cas le factoriser en me disant le premier photon est polarisé comme ça et le deuxième est polarisé comme ça. Ce qui caractérise un état intriqué, c'est qu'on ne peut plus parler des propriétés individuelles de chacun d'entre eux, bien qu'ils soient en train de s'éloigner et qu'ils peuvent s'éloigner de 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre, une année-lumière, si vous voulez. Ce qu'Einstein, Podolsky et Rosen ont reconnu, c'est que dans cet état remarquable, eh bien, si on se met à faire des mesures de polarisation ici, on va avoir des résultats qui sont très fortement corrélés et je vais passer 2 ou 3 minutes à essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. N'ayez pas peur des équations, je vais vous expliquer ça avec des mots. À partir du moment où j'ai fabriqué un état du type Einstein, Podolsky et Rosen, la mécanique quantique me donne les moyens mathématiques de calculer les probabilités d'observer le premier photon dans le canal plus 1 ou dans le canal moins 1 et le deuxième photon dans le canal plus 1 ou moins 1. C'est ainsi que je peux calculer la probabilité de trouver le premier photon dans le canal plus 1 pour une certaine orientation. Et le résultat du calcul, qui est à la portée d'un étudiant, je dirais, de troisième année d'université, d'un étudiant de maîtrise de physique, est écrit ici. La probabilité de trouver le photon nu 1 dans le canal plus 1 pour une orientation petit a, c'est-à-dire de lui trouver une polarisation suivant a, est égale à 50%. Et 50% de le trouver polarisé perpendiculairement à a. Et ceci indépendamment de la valeur de a. Donc ça veut dire qu'il a l'air pas polarisé du tout. Quelle que soit l'orientation de mon polariseur, je trouve 50% de chances qu'il soit polarisé suivant cette orientation et 50% qu'il soit polarisé perpendiculairement. Et puis je peux le tourner, je trouve toujours le même résultat. Ça n'a pas l'air polarisé du tout. Ça a l'air totalement aléatoire. Je prévois exactement la même chose pour l'autre côté. C'est ce qui est indiqué par l'équation qui est écrite ici. La probabilité de trouver plus 1 dans l'orientation petit b est égale à la probabilité de trouver moins 1 dans l'orientation petit b et ça vaut 1,5, ça vaut 50%. Là où les choses deviennent intéressantes, mais un peu plus difficile à calculer, c'est lorsque je calcule la probabilité conjointe P plus plus de AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me pose la question, quelle est la probabilité de trouver plus 1 ici et plus 1 là pour deux orientations AB? Le calcul est ce qu'il est, il n'est pas si compliqué que ça, et le résultat, c'est 1,5 de cosinus carré de l'angle entre les deux polariseurs. Peu importe la formule, le point important est le suivant. Si les deux polariseurs sont parallèles l'un à l'autre, si l'angle entre A et B vaut 0, les deux polariseurs ont été réglés suivant la même direction, alors cette probabilité est égale à 1,5, parce que cosinus de 0, ça vaut 1. Alors récapitulons. La probabilité de trouver nu 1 dans le canal plus 1 vaut 1,5. Mais la probabilité de trouver nu 1 dans le canal plus 1 et nu 2 dans le canal plus 1 vaut 1,5 également. Ça veut donc dire que la probabilité conditionnelle de trouver nu 2 dans le canal plus 1 lorsque j'ai trouvé nu 1 dans le canal plus 1, cette probabilité conditionnelle est égale à 100%. Il y a donc corrélation totale entre le résultat que j'ai trouvé ici et le résultat que j'ai trouvé là. Je peux d'ailleurs calculer de la même façon P moins moins de AB, et je trouve le même 1,5 de cosinus carré. Je trouve donc de la même façon que si nu 1 est allé dans le canal du bas, alors nu 2 est allé avec certitude dans le canal du bas. Et si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, eh bien vous regardez P plus moins. P plus moins est proportionnel au sinus carré de l'angle, et quand l'angle vaut 0, on sait que le sinus de 0, ça vaut 0, donc P plus moins vaut 0. C'est-à-dire que la probabilité de trouver plus 1 ici et moins 1 de l'autre côté est nul. Donc il y a forte corrélation entre les résultats de mesure des deux côtés. Je répète ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque le photon nu 1 arrive ici, apparemment c'est complètement aléatoire. Il y a 50% de chances de le trouver en haut, 50% de chances de le trouver en bas. Pour l'autre, ça a l'air totalement aléatoire. Il y a 50% de chances de le trouver en haut et 50% de chances de le trouver en bas. Mais en fait, ce n'est pas aléatoire du tout. Parce que si je trouve l'un en haut, je trouve l'autre en haut, et si je trouve l'un en bas, je trouve l'autre en bas. Donc les hasards des deux côtés sont totalement corrélés. C'est aléatoire ici, aléatoire là, mais ces deux aléatoires sont strictement corrélés. Voilà ce que prédisent Einstein, Podolsky et Rosen. Alors maintenant, si les deux polariseurs ne sont pas strictement parallèles, eh bien, la corrélation apparaît sous forme d'une fonction qu'on appelle coefficient de corrélation et dont on peut calculer la valeur. Je ne rentre pas dans ces détails techniques. Le point important est que le coefficient de corrélation vaut 1 quand les polariseurs sont parallèles entre eux, vaut moins 1 quand les polariseurs sont croisés. C'est ce qui est indiqué ici. La valeur moins 1 veut dire que si je croise les polariseurs, lorsque je trouve le photon ici, je trouve avec certitude l'autre dans le canal de signes opposés. Ce n'est pas très difficile. Bien. Ayant donc établi ce point, il y a des fortes corrélations entre les photons. Einstein et ses collègues se sont posé la question: comment arriver à se représenter ces corrélations entre les résultats de mesure ici et là? Je suis sûr que je rends le caméraman malheureux parce qu'il m'a dit de ne pas dépasser la ligne verte, mais il faut que j'approche du tableau quand même. Non, ça va, ça roule? Bon. Comment comprendre les corrélations entre le résultat de mesure de polarisation sur ce premier photon et le résultat de mesure sur le deuxième? Alors, quand vous avez un calcul qui vous a donné un résultat, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de regarder si le calcul ne vous suggère pas une image. Ben, je peux vous dire que le calcul global, il vous suggère zéro image, parce que c'est un calcul qui se fait dans un espace mathématique abstrait, qui porte globalement sur les deux particules. Je ne connais personne qui réussit à construire une véritable image simple avec ça. Mais on peut torturer un petit peu le formalisme quantique. Par le torturer, je veux dire faire un calcul parfaitement légitime, mais un peu trop compliqué. Vous savez, quand vous passez un examen, il y a toujours la solution simple, celle qui permet de répondre à la question en une minute, qui permet donc d'avoir la meilleure note le plus vite possible, mais il y a des façons plus compliquées qui arrivent au bon résultat. Et il y a une façon un peu plus compliquée qui arrive au bon résultat, qui est la suivante. Encore une fois, vous inquiétez pas pour les équations, il y en a qui les comprendront, et pour les autres, je raconte au tableau ce que ça veut dire. Et la deuxième image, c'est la suivante. Vous imaginez que ce polariseur est un peu plus près de la source que le deuxième, de telle sorte qu'on va d'abord faire cette mesure et puis la deuxième. Et dans ce cas-là, les bons livres de mécanique quantique me disent comment je fais pour faire le calcul. Je dis voilà, le premier photon arrive ici et j'ai 50% de chance de trouver plus 1, 50% de chance de trouver moins 1. Si je trouve plus 1, j'ouvre le livre et il y a quelque chose qui s'appelle postulat de réduction du paquet d'ondes qui me dit une fois que j'ai trouvé plus 1, alors le deuxième photon, instantanément, devient polarisé parallèlement au résultat que je viens de trouver. Et si je trouve moins 1, c'est-à-dire perpendiculaire à petit a, eh bien c'est la même chose, le postulat de réduction du paquet d'ondes me dit le deuxième photon, instantanément, est polarisé perpendiculairement à petit a. Et si j'applique ça, eh bien je retrouve le résultat que j'avais trouvé par le calcul plus rapide qui me permettait d'avoir la bonne note à l'examen, mais qui finalement me donne le même résultat. Alors évidemment, le problème, c'est que cette image est très dure à avaler. Surtout pour quelqu'un comme Einstein, qui croyait que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière. Car cette image vous dit, si je trouve plus 1 ici, alors instantanément, l'autre là-bas, c'est qui doit être parallèle à A. Mais si je trouve moins 1, alors instantanément, l'autre là-bas, c'est qui doit être perpendiculaire à A. Et ça, que les polariseurs soient à 1 micron, 1 mètre, 1 kilomètre ou une année-lumière. Alors évidemment, pour Einstein, qui pensait que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière, c'était quand même extrêmement choquant, et c'est pour ça qu'il a beaucoup argumenté sur le sujet. Et à ce moment-là, il est arrivé en disant « Mais écoutez, on n'est quand même pas obligé de croire à des calculs aussi invraisemblables. Enfin, on peut croire aux résultats du calcul, mais on n'est pas obligé de croire aux images qui sont suggérées par ce calcul. Après tout, moi, je peux vous montrer une image qui me permet de comprendre ces corrélations. » Et l'image est la suivante. C'est une image par cause commune, fluctuante, dans le passé. Alors, je vous explique. Imaginez que les deux photons sont émis avec deux polarisations parallèles suivant X. Et que les deux polariseurs, ici, sont orientés suivant la même direction. On ne va pas être étonné de voir les deux photons sortir en ordre. Et puis, si j'émets une deuxième paire de photons avec des polarisations perpendiculaires à l'axe X, suivant l'axe Y, et que les deux polariseurs sont toujours orientés comme ça, on ne va pas être étonné de voir les deux photons sortir vers le bas. Donc Einstein dit, écoutez, plutôt que de me raconter des histoires qu'au dernier moment, le photon, réduction du paquet d'ondes, etc., il n'y a qu'à imaginer que dès le début, les deux photons ont une propriété commune qui prédétermine le fait qu'ils vont sortir tous les deux en haut, ou qui prédétermine le fait qu'ils vont sortir tous les deux en bas. Et puis, pour des situations plus compliquées, eh ben c'est un peu plus compliqué, mais ils ont un petit catalogue, un petit manuel d'instruction qui leur dit « Vous, là, cette paire-là, vous allez vous comporter comme ça. » Alors, pourquoi est-ce que Niels Bohr, qui était le grand contradicteur d'Einstein dans cette affaire-là, pourquoi est-ce que Niels Bohr n'était pas content? Ben, Niels Bohr n'était pas content parce que Niels Bohr pensait, avec de fortes raisons, Niels Bohr était un très, très grand savant, Niels Bohr pensait que la mécanique quantique donner la connaissance ultime des choses, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer avoir une connaissance plus complète, qu'il y avait des limites avec les relations d'Heisenberg, et qu'il était impossible d'avoir une connaissance qui aille au-delà de ce qui était dans le formalisme quantique. Or, si vous acceptez l'image d'Einstein, vous complétez le formalisme quantique. Pourquoi? Dans le formalisme quantique, il y a une formule que j'avais écrite auparavant, qui était la description de cet état quantique. Ça s'écrivait quelque chose comme ça, hein. On disait psi égale 1 sur racine de 2, xx plus yy. Peu importe l'expression, le fait est que toutes les paires de photons sont décrites par le même état quantique. Or, si maintenant on se met à croire à l'interprétation d'Einstein, vous en avez certaines qui sont XX, d'autres qui sont YY, puis d'autres qui sont comme ça, et d'autres qui sont comme ça, et d'autres qui sont autrement. Donc vous introduisez une caractéristique supplémentaire qui vient différencier les diverses paires entre elles. Vous avez donc complété le formalisme de la mécanique quantique. Vous avez dit que caractériser la paire de photons par cet état, ce n'est pas suffisant. Il faut apporter une information en plus. Et ça, Niels Bohr croyait que c'était fondamentalement impossible. Einstein, lui, croyait que c'était possible. Et c'est le fameux débat de savoir si on a le droit ou pas d'introduire des paramètres supplémentaires, ce que certains ont appelé variables cachées. Et je dirais que Louis de Broglie, par exemple, était très partisan de ce genre de choses. Alors on en était là, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 50. Chacun campait sur ses positions. Et on pouvait imaginer que finalement, c'était un peu une affaire de goût. Parce qu'Einstein ne remettait pas en cause le résultat du calcul. Einstein croyait que la mécanique quantique donnait le bon résultat. Mais ce que Einstein ne croyait pas, c'est que ceci constituait la description ultime de ces paires de photons. Il pensait qu'il y avait une réalité physique sous-jacente, un peu plus fine que ça, et qu'il fallait trouver le bon formalisme pour la décrire. Mais enfin, tout ça apparaissait un peu comme des débats, je dirais, épistémologiques, mais sans grandes conséquences pour la physique. Et puis, en 1965, est arrivé sur la scène un très grand physicien, malheureusement disparu aujourd'hui, qui s'appelle John Bell, un physicien irlandais qui travaillait au CERN à Genève, et qui a pris au sérieux les idées d'Einstein. Et il a pris au sérieux les idées d'Einstein en disant, eh bien, d'accord, quelques équations, mais encore une fois, écoutez les sous-titres, oraux, si j'ose dire, écoutez le commentaire oral. Il a dit, voilà, lorsqu'une paire de photons est émise, j'admets qu'il possède des caractéristiques supplémentaires, que j'appelle collectivement lambda, et je ne précise pas quel est l'objet mathématique qui est caractérisé par ce paramètre lambda. Lorsqu'une paire de photons est émise avec ce paramètre lambda, eh bien, il existe une fonction grand A qui me dit avec certitude si je vais trouver plus 1 ou moins 1 lorsque j'aurai mis ce polariseur dans l'orientation A. C'est la fonction grand A qui est écrite là-haut. Et puis, il va exister une fonction grand B qui va me dire avec certitude si le photon nu 2 caractérisé par lambda va sortir dans plus 1 ou dans moins 1. Par ailleurs, il est clair que pour décrire cette expérience, il faut que j'introduise quelque part un caractère aléatoire, puisque je sais bien que de temps en temps, je trouve plus 1, de temps en temps, je trouve moins 1, donc il y a un caractère aléatoire à mettre. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on imagine qu'il y a un processus aléatoire au départ, dans la source, qui détermine le fait que la paire va partir avec un paramètre lambda, ou un paramètre lambda prime, ou un paramètre lambda seconde. Il y a donc une espèce de processus aléatoire qui fait que les paires partent avec tel ou tel paramètre supplémentaire, et donc je peux parfaitement caractériser ce processus dans la source par une densité de probabilité. Ceux qui ont fait un peu de probabilité savent que ce n'est pas particulièrement difficile, c'est une fonction positive, normée. Ce n'est pas particulièrement difficile. Et le point clé est le suivant. Dès l'instant où j'ai donné explicitement une valeur pour la fonction grand A, une valeur pour la fonction grand B et une valeur pour la densité de probabilité ρ, eh bien, je peux calculer toutes les probabilités qui m'intéressent. Et en particulier, je peux calculer avec cette théorie à paramètres supplémentaires, je peux calculer le coefficient de corrélation, le fameux coefficient de corrélation de polarisation que j'avais su calculer avec la mécanique quantique. Et l'espoir d'Einstein, c'était qu'il existait des théories à paramètres supplémentaires qui permettraient de reproduire tous les résultats de la mécanique quantique. Car alors on aurait réconcilié les prédictions de la mécanique quantique auxquelles Einstein croyait, et tous les physiciens croyaient, avec une image du monde beaucoup plus raisonnable, parce que si, dès le départ, les photons savent qu'ils vont sortir en haut ou en bas, eh ben, on n'a pas de problème particulier avec des signaux qui vont plus vite que la lumière ou je ne sais quoi. Donc l'espoir était là. Alors, Pour vous donner une petite idée, on peut par exemple, ici c'est un tout petit modèle que j'appelle naïf, qui n'est pas si naïf que ça, mais peu importe, on peut par exemple se dire, voilà, les deux photons partent, ils sont tous les deux polarisés comme ça. Et puis on invente une fonction qui est une fonction un peu astucieuse ici, et puis les deux photons, puis il y en a d'autres qui partent comme ça, et d'autres qui partent comme ça, et on admet qu'il y en a la même proportion qui partent suivant toutes les directions. Et si je fais un calcul avec ce petit modèle-là, qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve un résultat très intéressant. C'est la courbe verte qui est là-dessous. C'est un exemple pédagogique que je trouve intéressant, parce que cette courbe verte qui est là, qui est le résultat de ce petit modèle très simple, est finalement pas très loin de la prévision de la mécanique quantique. La prévision de la mécanique quantique, c'était un cosinus, je l'avais écrit quelque part, c'est la courbe pointillée qui est ici. Et vous voyez que la corrélation prévue par mon modèle simple est de 100% quand les polariseurs sont parallèles, et de moins 1 quand les polariseurs sont croisés. Quand c'est à 45 degrés, ça vaut 0, je ne commente pas ça, mais vous voyez que c'est la même chose que la prédiction de la mécanique quantique. Donc ici, ici, là, 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 ça coïncide exactement avec la prédiction de la mécanique quantique. Puis le reste du temps, ça n'est pas très loin. Donc on se dit, en travaillant un peu, en faisant un modèle un peu plus raffiné, on va sûrement arriver à pousser la courbe verte vers la courbe rouge, et Einstein sera content, on lui aura fait un modèle à variable cachée qui reproduit toutes les prédictions de la mécanique quantique, et tout va marcher bien. Et donc la question se posait quand on a commencé à réfléchir à ces choses-là. Ne peut-on espérer un modèle à paramètres supplémentaires suffisamment élaboré pour reproduire toutes les prédictions de la mécanique quantique? Et c'est là que John Bell rentre en scène et il nous sort le théorème de Bell, qui n'est pas compliqué du tout, puisque le théorème de Bell tient au fait que non, il n'est pas possible d'inventer un modèle à paramètres supplémentaires qui reproduit toutes les propriétés de la mécanique quantique. Alors, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Eh bien, il y a une petite démonstration mathématique qui ne dépasse pas le niveau de seconde ou première, mais que je ne vous ferai pas quand même parce que ça prendrait un peu de temps, et qui démontre qu'il existe une certaine quantité grand S qui doit nécessairement être comprise entre moins 2 et plus 2 si vous avez une théorie à paramètres supplémentaires. Alors, cette quantité grand S, c'est une combinaison de quatre coefficients de corrélation construits de la façon suivante. Vous prenez deux directions pour le premier polariseur, A ou A'. Puis vous prenez deux directions pour le deuxième polariseur, B ou B'. Et puis, vous faites la mesure en prenant A et B. Vous faites une mesure. Après, vous changez. Vous faites A et B'. Bon. Puis, vous prenez la deuxième orientation. Vous faites A'B'. Et enfin, vous faites A'B. Vous avez donc fait quatre mesures. Et puis vous les combinez de cette façon-là. Trois signes plus, un signe moins. Ça, c'est le petit coup de génie de John Bell d'avoir trouvé qu'il fallait mettre un signe moins ici. Et John Bell vous démontre que si ces corrélations peuvent être décrites par l'histoire des paramètres cachés, c'est-à-dire le fait que les photons, lorsqu'ils partent, ils savent où ils vont, alors cette quantité est nécessairement comprise entre plus 2 et moins 2. Or, si vous prenez le calcul de la mécanique quantique que j'ai présenté au début, enfin dont j'ai présenté le résultat en tout cas, il n'est pas très difficile de voir que lorsque les directions A, B, A' et B' sont disposées ainsi, avec des angles de 22,5 degrés, pourquoi 22,5? Parce que 2 fois 22,5, ça fait 45, le cosinus de 45, ça fait 1 sur racine de 2. Bref, vous trouvez que la mécanique quantique prévoit qu'avec ces orientations particulières, la quantité S qui est ici doit valoir 2 racine de 2. Et 2 racine de 2, ça vaut 2,8. Et 2,8, c'est plus grand que 2, il n'y a pas de doute. Donc, la mécanique quantique viole l'inégalité de Bell. Or, l'inégalité de Bell s'applique à tout modèle à variable cachée. Ça veut donc dire que la mécanique quantique est incompatible avec les modèles à variable cachée, ou, en prenant le problème dans l'autre sens, il n'existe pas de modèle à variable cachée qui est capable de prédire les résultats prévus par la mécanique quantique pour ces orientations-là. Donc, réponse de John Bell, vous pouvez toujours essayer les théories les plus compliquées que vous voulez à variable cachée, vous n'arriverez jamais à reproduire les résultats de la mécanique quantique. Il faut donc renoncer à décrire les corrélations Einstein-Podolsky et Rosen par ce modèle pourtant si sympathique où, dès le départ, les paires de photons possédaient la propriété qui déterminait ultérieurement le résultat de la mesure. Alors, dans la démonstration de John Bell, je passe sur un certain nombre d'hypothèses. Il y a une hypothèse absolument essentielle qui est la suivante. Dans le raisonnement de John Bell, pour arriver à cette fameuse inégalité que je vais écrire de l'autre côté, S compris entre moins 2 et 2, il y a une hypothèse essentielle qui est que, pour démontrer cette inégalité, on doit admettre que le résultat de la mesure, ici, ne peut pas dépendre instantanément de ce qui se passe de l'autre côté. Et réciproquement, ce qui se passe ici ne peut pas dépendre instantanément de ce qui se passe ici. Et également, la façon dont les paires sont émises dans la source ne peut pas dépendre des orientations que je choisis pour les deux polariseurs qui sont là. Alors cette hypothèse a l'air très naturelle pour tout physicien normalement constitué, mais néanmoins ici on est en train de toucher aux concepts les plus subtils dont on peut se demander est-ce que cette hypothèse est vraiment raisonnable. Après tout, on pourrait imaginer qu'il y a une force inconnue qui s'exerce, une interaction inconnue qui s'exerce entre tous ces objets et qui fait que, eh bien non, au moment où les paires sont émises ici, elles ont senti d'une certaine façon, par une interaction que nous connaissons mal, elles ont senti l'orientation des polariseurs. Mais alors, il y a une bonne façon d'empêcher ce scénario de se produire. Ce serait de laisser partir les deux photons, et puis pendant qu'ils sont partis, hop, on tourne d'une façon aléatoire le polariseur qui est là. Alors là, il est clair que, à cause du principe de causalité, qui fait que les conséquences viennent après les causes et que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, il devient clair qu'à ce moment-là, la façon dont les paires sont émises ne peut pas dépendre des orientations que je donnerai dans le futur à ces polariseurs, et de la même façon, ce qui se passe ici ne peut pas dépendre de ce qui se passe au même moment de l'autre côté, parce que de toute façon, ça a changé une quantité aléatoire entre-temps. Donc ça, ce serait l'expérience idéale, ce serait une expérience dans laquelle on tournerait les polariseurs à toute vitesse, de façon à empêcher toute possibilité de communication. Et donc, pour conclure, avant de passer aux expériences, je voudrais résumer le théorème de Bell en disant que certaines prédictions de la mécanique quantique, il n'y en a pas beaucoup dans les situations de type Einstein-Podolsky-Rosen, certaines prédictions de la mécanique quantique ne peuvent pas être simulées par un modèle classique raisonnable dans l'esprit des idées défendues par Einstein. J'ai invoqué Einstein deux fois, une fois pour introduire les paramètres cachés, le fait que les propriétés étaient partagées dès le départ par les photons, et une deuxième fois pour dire que si les côtés sont indépendants, c'est à cause de la théorie relativité d'Einstein, à condition que je tourne assez vite les polariseurs. Bien. Eh bien, à partir de là, il était tentant de faire des expériences. Et dans les années 70, une première série d'expériences ont été faites par des physiciens aux États-Unis. C'est ce que j'appellerai les expériences de première génération, et je ne vais pas les décrire parce que je n'ai plus trop de temps. Et ces expériences ont donné des résultats que je dirais contradictoires, ce qui n'était pas étonnant vu l'état de la technique de l'époque. Au début des années 1980, nous avons fait des expériences, excusez-moi pour le transparent en anglais, je n'ai pas réussi à le retrouver, j'en ai en français, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Nous avons fait des expériences à Orsay où, en bénéficiant de tous les progrès des lasers, de l'optoélectronique, nous avons réussi à faire une expérience, vous le remarquerez, qui ressemble très exactement à l'expérience idéale qui est dessinée au tableau. Et c'était la première fois qu'on faisait une expérience comme ça. Vous avez les deux photons qui s'en vont, ils sont séparés par des filtres colorés qui me permettent de distinguer le photon vert et le photon violet. On ne voit pas bien les couleurs là-haut, mais moi je le vois là-dessus, donc celui-là est vert, celui-là est violet. Et puis ici, vous avez des séparateurs de polarisation, un peu comme ce cube, où c'est des choses un peu plus modernes, faites avec des empilements de couches diélectriques. Et puis ici, on détecte dans la voie plus 1, dans la voie moins 1, on est capable de faire tourner pour régler le paramètre la direction A. L'autre côté, on est capable de tourner pour régler la direction B. Voilà. Et avec cette expérience, on peut en un seul coup mesurer toutes les quantités nécessaires pour déterminer le coefficient de corrélation. Et quand on a fait cette mesure, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, le résultat de la mesure est là. Le S trouvé dans l'expérience est égal à, bon, je passe sur les décimales, 2,7, pratiquement, en excellent accord avec ce que prédit la mécanique quantique, et clairement, très au-dessus de la limite des inégalités de Bell. Donc, il n'y a aucun doute, ce résultat vous montre que la nature suit très bien la mécanique quantique, même dans ce cas où il y a un conflit violent avec les inégalités de Bell, c'est-à-dire un conflit violent avec toute interprétation en termes de causes communes, dans le fait que les photons connaîtraient dès le départ ce qu'ils doivent faire. Alors vous allez me dire, oui, mais reste l'affaire de la localité, l'affaire de faire tourner les polariseurs rapidement. Alors à l'époque, c'était difficile. Si j'avais le temps, je vous montrerai une photo qui vous montre que chacun des détecteurs, c'est un bloc qui fait une centaine de kilos. Il y a des polariseurs, il y a des photomultiplicateurs blindés avec des enceintes en plomb, des choses comme ça. Comment espérer faire tourner un polariseur d'une centaine de kilos en un temps court par rapport au temps de propagation de la lumière entre ici et là? J'avais un laboratoire de 13 mètres de long. Je disposais d'une dizaine de milliardièmes de secondes pour faire tourner le polariseur. Il n'était pas question de le faire tourner. Alors, on a trouvé une astuce. L'astuce est la suivante. Au lieu de chercher à faire tourner les polariseurs, on met ici un petit aiguillage, un commutateur, un aiguillage, qui envoie la lumière soit vers ici, soit vers là. Ici, je mets le polariseur dans la première orientation B. Ici, j'en mets un deuxième dans une deuxième orientation B'. Et mon aiguillage enverra le photon soit vers B, soit vers B'. Et l'ensemble est équivalent à un seul polariseur qui tourne de B en B'. Cette expérience est une expérience très difficile, à la limite de ce qui était possible de faire, c'était en 1982. Néanmoins, les résultats ont été sans ambiguïté en faveur de la mécanique quantique et ont clairement violé les inégalités de Bell, c'est-à-dire que même dans cette situation où on interdit aux deux bouts de l'expérience de se parler et où on interdit à la source de dépendre de ce qui se passera plus tard, eh bien, il n'y a pas de doute, il faut croire à la mécanique quantique et renoncer à cette image pourtant si agréable, qui était une image dans laquelle on pouvait bien comprendre les corrélations parce que, eh bien, elles étaient prédéterminées dès le départ. Alors, pendant une quinzaine d'années, cette expérience est restée la seule de ce sujet. Et puis, il y a 2 ans, il y a une expérience bien meilleure que celle que nous avions faite, qui a été faite à Innsbruck, dans l'équipe de Anton Zeilinger, qui confirme de façon admirable qu'effectivement, il faut croire à la mécanique quantique. Alors, vous voyez, c'est une expérience dans laquelle maintenant les photons se propagent dans des fibres optiques. Chaque fibre optique fait 400 mètres, dont on envoie un photon d'un côté, un photon de l'autre. On a tout le temps pour tourner de façon aléatoire les polariseurs en cours de route. On a beaucoup plus de temps, donc on peut faire des choses beaucoup plus raffinées. Et le résultat de cette expérience magnifique est de façon indubitable en faveur de la mécanique quantique. Donc, où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes au point où, manifestement, il faut renoncer à une image qui aurait été pourtant bien agréable pour comprendre ces corrélations. Pourquoi aurait-elle été agréable? Je pense que aucun d'entre nous n'a de doute lorsqu'on observe une corrélation entre deux événements dans le monde qui nous entoure, et à condition d'avoir l'esprit un tant soit peu rationnel, aucun d'entre nous n'a de doute sur le fait que ces corrélations, on leur cherche une cause en termes de propriétés communes. Par exemple, lorsque des médecins observent que des jumeaux vrais ont la même maladie systématiquement ou ne l'ont pas systématiquement, autrement dit, si un des jumeaux l'a et l'autre a cette maladie, mais si un des jumeaux n'a pas cette maladie, alors l'autre jumeau n'a pas cette maladie. Je pense que personne d'entre nous ne doute que cette maladie est sûrement d'origine génétique. Ils ont les mêmes chromosomes et c'est l'expression de ces chromosomes qui sont les mêmes chez les deux jumeaux qui fait que les deux malheureux ont la maladie ou que les deux bienheureux n'ont pas la maladie. Et c'est une image de ce type qui avait été envisagée par Einstein. Einstein disait, si le comportement du photon de ce côté et le comportement du photon de l'autre sont si corrélés, c'est parce qu'ils sont jumeaux, c'est parce que dès le départ, ils possédaient une propriété. Eh bien, il faut renoncer à cette idée à la lumière des expériences qui ont été faites ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de là? Eh bien, Einstein ne connaissait pas les résultats de cette expérience. Mais Einstein avait dit qu'il aurait beaucoup de mal à croire, mais que, admettons qu'il faille renoncer à interpréter ces corrélations par une image telle que celle qu'ils auraient aimée, alors il ne voyait que deux possibilités. Soit laisser tomber l'exigence d'une existence autonome de la réalité physique présente en différentes portions de l'espace, ou accepter que la mesure de S1 change instantanément la situation réelle de S2. Que voulait-il dire? La première hypothèse, c'est que Einstein lui pensait qu'à partir du moment où les deux photons étaient séparés, à cause de la relativité, lorsque deux objets sont séparés, ils constituent deux entités indépendantes. Et il dit que si on croit vraiment très fort à la mécanique quantique, et donc aujourd'hui on peut dire au résultat de ces expériences, eh bien on peut être amené à renoncer à cette idée, et c'est précisément ce qui est écrit dans le formalisme de la mécanique quantique qui est ici. Lorsque j'écris un vecteur d'état de ce type pour la paire de ce photon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un état intriqué. Je ne peux plus dire que le premier photon a une certaine polarisation et que le deuxième a une certaine polarisation. Même s'ils sont très éloignés, je ne peux décrire que globalement cette paire. C'est un objet intriqué. Et si je n'accepte pas cela, alors la seule possibilité qui me reste, c'est d'accepter que la mesure de S1, ici la mesure du premier photon, nu1, va affecter instantanément la mesure de l'autre côté, aussi loin que ça soit. Et ça, vraiment, c'est très contraire à la relativité. Même si on peut démontrer que de toute façon, en aucun cas, il n'est possible de transmettre des vrais messages utilisables plus vite que la lumière. Donc la conclusion, c'est sans doute qu'il faut accepter quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire accepter que deux photons intriqués, même quand ils sont très loin l'un de l'autre, ils continuent à constituer un tout non séparable. Alors, ce qui est tout à fait étonnant dans ce domaine, et je crois que je vais conclure là-dessus, c'est que vous pouvez penser que toutes ces discussions sont des discussions très formelles. Alors, je suppose que si vous êtes venu ici ce soir à cette conférence, ça ne vous choque pas particulièrement, et c'est que vous aimez la connaissance pour la connaissance, et que le fait de discuter sur la représentation ultime que nous pouvons avoir du monde, ces discussions de titans qui avaient lieu entre Einstein et Bohr, ça vous intéresse. Mais ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que dans les 20 dernières années, en réfléchissant à ces discussions et en allant jusqu'à monter des expériences pour résoudre le débat, eh bien finalement, les physiciens en sont venus non seulement à résoudre le débat, à mettre en évidence ces propriétés extraordinaires prévues par la mécanique quantique, à montrer qu'elles existent vraiment dans le monde que nous connaissons, mais d'un seul coup, eh bien un certain nombre de ces physiciens ont eu l'idée que ces propriétés pourrait être utilisé pour des applications auxquelles on n'avait jamais pensé. J'en dis un tout petit mot, et ce sera l'objet d'autres conférences, la cryptographie quantique. La cryptographie quantique, le fait qu'on peut aujourd'hui envoyer de l'information en étant certain qu'aucun espion n'a pu l'intercepter. Ce sont les propriétés même de la mécanique quantique qui vous permettent de dire oui, il y avait un espion sur la ligne, ou non, il n'y avait pas d'espion sur la ligne. La téléportation quantique, qui est quelque chose, qui est un mot utilisé à tort et à travers, mais qui est quand même quelque chose de fascinant dans la mesure où ça permet de transporter l'état quantique d'un objet, un vecteur d'état tel que celui-ci, eh bien on peut le transporter à distance, et ça c'est quelque chose auquel on n'aurait même pas rêvé il y a une vingtaine d'années, donc ça, c'est quelque chose qui excite surtout les physiciens, c'est très difficile à expliquer ce que c'est. Le problème de la décohérence dont Serge Haroche a dû parler hier et du chat de Schrödinger. La question est la suivante. À partir de quel moment un état intriqué comme celui-ci évolue-t-il sous l'effet de l'interaction avec les perturbations de l'environnement de telle sorte que les deux objets retrouvent leur individualité? C'est un problème auquel on sait mal répondre et auquel les gens comme Serge Haroche essaient de répondre. Et si on arrive à résoudre ce problème, eh bien on peut rêver à des ordinateurs quantiques qui auraient des puissances de calcul extraordinairement plus grandes que celles des ordinateurs de ce jour. Mais ceci est une autre histoire et sera l'objet d'une autre conférence. Et je vais donc m'arrêter ici.